Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. On va parler cinéma aujourd'hui en compagnie d'une icône de la pop culture, M. Night Shyamalan, dont les films comme Le Sixième Sens ou Incassable ont marqué au fer rouge une génération. Traumatisé, pourrait-on dire, comme je l'ai été en découvrant Glass, le troisième volet d'une trilogie entamée avec Incassable, justement. Pourquoi ? Parce qu'il y a question d'un homme souffrant de personnalités multiples et que ce sujet-là me touche énormément.
Non pas que j'en souffre moi-même, même si on m'appelle aussi une huître, vu qu'un huître, c'est mon totem. Et je peux vous dire qu'avec tous ces réveillons, ben je l'ai senti passer, hein.
Oui, croyez-moi, ce n'est pas facile tous les jours d'avoir plusieurs personnages qui se bousculent dans votre tête.
Hey, M. Night Shyamalan, là. Ouah, putain, l'hindou, quoi. Hey, c'est pas une grosse tapette par hasard? Il a jamais fait tourner Dick. Et je peux te dire que Dick, il y en a quelques-unes des personnalités multiples.
Oui, c'est difficile, surtout quand on fait un travail comme le mien, où il vaut mieux s'adresser aux invités d'une seule et même voix.
Moi, Le Sixième Sens, ça m'avait fait drôlement peur, surtout qu'après, ils m'avaient annoncé qu'ils voulaient me ramener à l'orphelinat, même que je leur avais dit « Vous allez pas m'abandonner quand même !»
Mais peut-être que la solution, c'est d'aller à la rencontre de M. Night Shyamalan. Surtout qu'il n'est pas seul, lui non plus. Non, on a aussi droit à son très génial acteur, James McAvoy.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, celle qui n'est pas non plus toute seule dans sa tête, Charline Roux. Bonjour Charline.
Je ne suis pas folle, vous savez.
Bonjour.
Bonsoir.
Charline.
Bonjour
Charline.
Antoine.
Bonjour
Antoine.
Charline. Oui, Charline. Bonjour. Au menu de Pop-pop-pop, donc, direction l'univers fascinant du réalisateur de Sixième Sens, M. Night Shyamalan, venu nous présenter avec son acteur James McAvoy son dernier film-événement, Glass. Vous avez vu, Charline, j'ai dit film-événement et non film et vêtements. Je progresse, hein.
Mais vraiment, 2019 sera votre année, Antoine.
Oui, rien ne sera plus pareil. Au menu également de Pop-pop-pop, un détour par la planète pop de notre chroniqueur Ronan Crowe. Mais avant ça, quand je dis Night Shyamalan est venu nous présenter, c'est pas tout à fait exact. En réalité, nous sommes allés à la rencontre du réalisateur à l'hôtel Bristol, célèbre hôtel qui porte le nom de mes fiches. Et justement, sur ma fiche Bristol, la première question était...
M. Night Shyamalan, pour vous, c'est quoi la pop culture?
Gosh,
Ah, mon Dieu.
When you say that, I'm trying to think about what I mean. Gosh, look
at our society
in the United States with
Trump. Voyez la société américaine avec Trump. C'est lui la pop culture, Trump.
Our reality.
Il est devenu notre réalité.
I mean, you know, we're getting confused, right, between.
Là, on s'en mêle vraiment les pattes.
What's meaningful and what's
entre ce qui est ce qui a du sens et ce qui est une blague. On mélange les frontières.
Anything that entertains us,
tout ce qui est spectacle pour nous devient le pinacle. En tant qu'auteur moi-même, je trouve que c'est tellement dangereux d'écrire « Je t'aime ». Parce que là, on perd vraiment les gens. On demande le générique après. Mais si j'écris
« Back that ass up »,
Back that ass up, ben voilà. Au moins, ça va réveiller les gens.
It's a line, you know,
c'est vraiment une réplique.
You know, line, you know, like, hey, girl, back that ass up. You know, come on over here. But it's, you know, and what's really interesting
is, if you just think about what I just said, so one line, si on y réfléchit un peu, c'est juste une réplique. Et c'est tellement facile, simple, et ça peut manipuler.
Back that ass up.
Mais c'est drôle, et c'est plein d'esprit. Et puis c'est cool, c'est branché. Et au lieu d'avoir un personnage qui dit I love you, je t'aime, je vous aime, on a quelqu'un qui perd toute crédibilité pour ces mots. Il utilise tout le temps ces expressions. Et il joue là-dessus. Et donc moi, je peux écrire Back That Ass Up et gagner. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je peux vraiment si facilement gagner? Dans Glass, c'est une version de I love you en l'écrivant comme ça.
Family groups in there, and it's very
en montrant
dark,
tous les membres d'une famille. C'est un film sombre et j'essaie de montrer tout ce qu'il faut, de m'appliquer. Mais j'espère vous apporter, vous amener dans un endroit où vous pourrez comprendre ces mots-là. Je t'aime. Et la culture pop, pour répondre. La pop culture peut vraiment vous distraire de choses qui sont tellement importantes. C'est sûr que le spectacle, c'est épatant, mais vraiment, ça devrait être vraiment, ça restait sur cette étagère-là. Et alors qu'en ce moment, elle est partout.
Et voilà, mesdames et messieurs. messieurs, nous venons de faire notre entrée dans le Guinness Book avec la définition de la pop culture la plus longue au monde. Merci M. Night Shyamalan. On parle de pop, de culture, de pop culture, de schizophrénie et de Stuart Little dans la suite de Pop 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 avec M. Night Shyamalan et James McAvoy juste après le morceau Trop beau de l'homme pâle.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous, le destin, pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai.
Trop beau, c'est un morceau signé L'Homme Pâle à retrouver sur l'album Janine. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui
multipop,
en compagnie de...
Multipop.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux personnes qui en sont en réalité 26 à eux deux. Pas facile de faire un pop portrait, hein, Charline, débrouillez-vous. Moi, je peux juste vous dire qu'un pop portrait, c'est un portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et que c'est signé, bah...
Aujourd'hui, nous recevons un réalisateur appartenant au genre des petits malins qui aiment rien qu'à nous faire sursauter et nous surprendre. On est encore aujourd'hui un peu frissonnant en entendant...
I see dead people.
Bah non, mais moi je suis pas obligée de parler comme ça. Après nous avoir fait voir des gens morts, il nous a présenté des héroïques dans Incassable, des extraterrestres dans Signs, des super flippants dans Le Village, des aquatiques dans La Jeune Fille de l'Eau, ou des 24 en 1 dans Split. Ayant pour héros notre deuxième invité, James McAvoy, jeune écossais, confronté à un lion, une sorcière blanche et une armoire magique dans Le Monde de Narnia, à un amour ravageur dans Reviens-moi, à Amin Dada dans Le Dernier Roi d'Écosse, à Angelina Jolie dans Wanted, ou confronté à une flopée de mutants dans Les Nouveaux X-Men dont il est le professeur Xavier. Aujourd'hui, ambiance pop au carré, puisque les deux sont réunis pour Glass, qui mélange donc les personnages d'Incassable et de Split. Attention, ça va switcher de personnalité. Antoine, à vous. Je ne suis pas folle, vous savez.
Bien, quand on a la chance de rencontrer James McAvoy dans une émission de pop culture, que fait-on ? Eh bien, on lui demande ce qu'il aime dans la pop culture. On lui a demandé de choisir un livre, un film, une série culte et une chanson. C'est sa pop list. Hop. Votre film de référence ?
J'en ai beaucoup de films préférés. Mais si jamais j'en devais en choisir un, ce serait certainement Brève Rencontre.
I'm a happily married woman. Or rather, I was until a few weeks ago. This is my whole world. And it's enough. Or rather, it was until a few weeks ago.
Can I help you?
Oh, no, please, it's only something in my eye.
Pulling your eyelid down as far as it'll go.
And then blowing your nose. Please let me look. I happen to be a doctor.
That's very kind of you.
Oh, turn around to that, please.
That's how it all began. Just through me getting a little piece of grit in my eye.
The acting is...
Parce que là, les acteurs...
Funny.
Sont drôles.
Really... Of its time.
Et c'est un film de son époque.
Very particular of its time.
Très particulier.
It's, at times it's...
De cette
so
époque.
So big and bad... And then at times it's more
il y a des moments où c'est un film très minimaliste, un style minimaliste qui est des fois le jeu des comédiens est trop très fort. Et c'est un film très étonnant. Et aussi c'est une histoire d'amour qui est bouleversante. Mais j'aime la tragédie épique à partir d'une petite histoire quelque part de banlieue, quoi, une petite histoire. Et franchement, c'est quelque chose d'épatant. Et donc cette tragédie énorme qui sort de ces personnages-là, dans la classe moyenne d'un faubourg anglais, c'est ça que j'apprécie.
Le livre auquel vous revenez toujours?
The book, I think, The Road, Cormac McCarthy.
Je crois que c'est Cormac McCarthy, The Road, La Route.
Pourquoi, en deux phrases?
It's adventure. And
c'est de l'aventure.
It's thrilling and it's scary, it's terrifying.
C'est un thriller, ça fait peur.
Moving.
Aussi, c'est émouvant.
A beautiful exploration.
Et c'est une exploration très belle d'une relation entre un homme et son fils. D'un fils et son père.
And the sacrifices that are
le sacrifice qu'ils font.
Why,
je ne sais pas pourquoi, mais le sacrifice dans les histoires, c'est toujours quelque chose qui m'émeut. Mais ce livre m'a bouleversé et m'a marqué. Je pense que franchement, c'est la réaction émotive que j'ai eue par rapport à un film la plus forte, par rapport à un roman.
Une chanson
The Black Keys,
Black Keys,
Run Right Back to Her.
Run Right Back to Her?
I think that's the name of the song.
Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans cette chanson?
It just reminds me of a particular person.
Mais ça me rappelle quelqu'un.
Yeah.
Voilà. et pour finir, une série télé?
Wow, TV series, The West Wing.
West Wing à la Maison Blanche.
Tons of it.
Parce qu'il y en a des tonnes hein, de séries.
15,000 seasons.
Il y a aussi beaucoup de saisons pour cette série. Il y en a 15,000.
Sci-fi value, Battlestar Galactica.
Et puis Battlestar Galactica, la nouvelle série aussi dans le genre science-fiction. Et j'adore la science-fiction.
After Virgon buried their nukes, the leaders of the 12 colonies promised we would never see war of that scale again. Peace would reign in our lifetime and the lifetimes of our children. They could not have predicted the Cylon Rebellion less than 30 years later, the worst conflict in colonial history, and we are at a stalemate. No foothold gained that isn't lost again within weeks.
Hey! M. Night Shyamalan et James McAvoy sont au casting de ce pop-up spécial. Entretien avec eux juste après le morceau Dynamite de Mrs. Dynamite. Et spoiler, dans la suite de l'émission.
Oui, je parle comme ça, ça c'est du teasing.
Antoine Decaune sur France Inter.
Dynamite de la chanteuse anglaise Mrs. Dynamite.
Vous l'avez fait prononcer par votre assistant personnel, non ? On dirait Siri qui parle.
C'était dans Pop sur France Inter. Aujourd'hui, dans Pop, on parle du dernier volet de la trilogie lancée par le film Incassable. Ça s'appelle Glass et on en parle avec son réalisateur M. Night Shyamalan. Vous êtes prête, Charline ?
Oui.
Alors, on y va. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très touché, personnellement, de vous rencontrer. Vous avez participé à l'écriture du scénario de Stuart Little, de Rob Minkoff, et j'étais la voix française de Stuart Little.
Oh, you're kidding.
Non, non, non.
What?
C'est très émouvant.
We are connected.
Oui.
On a un lien.
What?
Vous voulez que je...
C'est fantastique.
Vous voulez que je vous fasse Stuart Little?
I would love it.
J'adore
ça. Je parlais avec une toute petite voix comme ça.
Wait, are you being serious?
This was... Non, c'est sérieux?
Non, c'est absolument sérieux.
Non, non, je confirme.
Okay, yeah, because you were laughing, I thought perhaps.
Parce que vous rigoliez, vous, alors.
Vous avez entendu la voix de la souris, c'est normal que je rie.
Non, non, je parlais avec cette petite voix
Et là, je parle comme Antoine.
C'est dingue. C'est merveilleux. J'ai rencontré Michael J. Fox en vacances un fois et je lui dis salut. C'est toi qui as été la voix de quelque chose que j'ai écrit. Donc j'ai l'équivalent français devant moi de Michael J. Fox. Alors.
Oui, c'est moi.
Ok, donc assez avec les souris. Antoine et moi-même, nous sommes engagés à ne rien révéler des multiples twists et rebondissements de glace. Et du coup, ça nous amène à notre première question. Sans souris, j'entends. Est-ce que promouvoir et tout simplement sortir un film de ce genre en gardant le secret, c'est une pression supplémentaire pour le réalisateur que vous êtes?
Il y a plein de choses dont on peut parler. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler. On essaie d'éviter certaines choses, c'est tout. Pour le public. Mais d'habitude, on y arrive à discuter. Parfois, il y a un journaliste quelque part qui dit quelque chose et lui dit non, là non. Et parfois, ils veulent continuer quand même.
En même temps, j'imagine que vous commencez à en avoir l'habitude depuis le Sixième Sens, sorti il y a presque 20 ans.
Les gens, effectivement, parlent souvent de changements et de choses qu'il y a dans l'histoire de surprise. Donc c'est super, c'est sympa. Quand on a montré le film hier soir à un public français, et puis ce matin à un public australien, demain ce sera les Anglais qui vont découvrir le film à Londres. Et donc effectivement, on leur demande et on compte sur eux d'en parler sans trop dévoiler de choses.
Alors justement, vous avez observé une différence de réaction entre le public français et le public australien en regardant Glass?
C'était ce matin en fait en Australie, j'étais pas présent. Il y a eu quelques projections en Amérique et c'était tout à fait la même chose que le public français. Il y a un lien avec Incassable et avec l'autre film avec Split. Il y a un lien vraiment pour le public, ça fonctionne.
Vous venez aujourd'hui donc nous parler du très très attendu Glass qui réunit David Dunne, Elijah Price, héros et némésis d'Incassable, et Kevin Wendell Crumb et ses 24 personnalités croisées dans Split. Bande-annonce.
Vous pensez tous les trois avoir des dons extraordinaires, comme ceux qu'on trouve dans les comics. J'ai mis au point un traitement efficace contre cette pathologie. Sous l'effet des flashs, une nouvelle identité va faire surface.
Por favor, signora. Rendez-moi mes écouteurs.
Éloignez-vous de l'interrupteur, très cher.
Elle est super forte, la bête.
Vous n'avez pas l'intention de me laisser sortir d'ici en me serrant la main, alors?
Vous avez raison.
Que voulez-vous? Je suis venu voir si c'est vrai ce qu'on raconte sur ces êtres prodigieux. Puis-je rencontrer la bête?
Glass est donc le dernier film d'une trilogie entamée en 2000 avec Incassable. Est-ce que vous aviez en tête dès le départ le principe d'une structure en trois actes qui est tellement typique de l'univers des comics?
Je crois que le chiffre 3 est rythmiquement. On fait les choses par 3, pas seulement les films, plein de choses. Ça peut aussi marcher avec d'autres choses à l'intérieur des films, dans le rythme de narration des films. Il doit y avoir une sorte de code en dehors de nous qui doit nous guider vers ce chiffre 3. Les trois actes d'un film, par exemple, c'est une règle régulière. Mais pour Incassable, effectivement, avec Split, et dans la plupart des choses de ce que vous venez de découvrir dans Glass, c'était quelque chose qui était énorme à raconter en un seul film. C'était pas du tout réaliste. J'ai donc divisé ça en trois parts, et j'ai fait d'abord Incassable.
Dans quel état émotionnel vous étiez à l'idée de vous replonger partiellement dans l'univers d'Incassable quelques 19 ans plus tard, quand on sait l'importance qu'a eu le film et dans votre carrière et sur les films de super-héros au cinéma, quelle que soit leur écurie?
C'est drôle de se retrouver là, à Paris. Et en fait, ça vient de me revenir, ça, en vous écoutant. Le premier pays dans lequel j'ai voyagé pour passer et montrer mon film, c'était à Paris. C'était pour Incassable. Et pour le Sixième Sens, on ne m'avait pas fait voyager. Personne n'avait vu mes deux premiers films, donc personne ne me disait, ne m'en parlait du tout. Et c'est le premier pays que j'ai visité. Et c'était donc pour Incassable. Et de voir ce film qui représente tellement de choses pour moi, effectivement, quand je reviens ici pour montrer Glass, ça me ramène à mes débuts, C'est comme devenir un cinéaste international avec une relation avec des publics tout autour du monde. Et bref, je suis très nostalgique, en fait. Et je suis plein de, aussi de reconnaissance. J'espère que les spectateurs ressentiront que j'ai eu beaucoup de chance de sans doute faire ces films et de me retrouver 30 ans après, ou presque, à toujours faire des films. J'ai commencé à 21 ans à faire des films, sans aucune garantie que dans à la quarantaine, je pourrais continuer encore, avec toujours des choses à dire. Donc c'est très particulier. Quand Split a été numéro 1 dans la plupart des pays, je crois que c'était vraiment la troisième fois seulement que quelqu'un ait fait quelque chose comme ça, en l'espace de 30 ans, avoir des films qui ont un grand succès. J'ai donc eu énormément de chance.
Vous avez incorporé des séquences coupées d'Incassables dans Glass pour des scènes qui représentaient les souvenirs de David et de son fils. Vous les aviez encore toutes en tête ?
Oui, quand j'ai commencé à réfléchir à la possibilité étrange de faire une suite de deux films avec une génération qui a passé. Et une des chances possibles, ce qui serait merveilleux, c'est de revenir aux mêmes acteurs 19 ans auparavant. Et ça, c'est une chose très forte de pouvoir, de regarder, de voir la mère d'Elijah dans un plan que j'ai tourné il y a 19 ans, et de la voir, et de voir le petit garçon qui avait 10 ans. 10 ou 11 ans quand j'ai fait Incassable, et aujourd'hui il a 30 ans dans Glass. Il est plus vieux que je n'étais moi quand je le dirigeais dans le premier film, et je suis sûr que le public ressent ça quand il voit le petit garçon qui a grandi à l'écran. Ça représente quelque chose comme un souvenir, quelque chose, une page importante d'une carrière. Et ça aide à avoir des souvenirs et à être nostalgique.
Un cinéaste creuse toujours ses obsessions. Avec cette trilogie, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bouclé l'une des vôtres ?
J'ai eu le sentiment que c'était pas quelque chose que je faisais vraiment en l'honneur des personnages, mais en tout cas d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Dans toutes les interviews que je fais pour les films, quelque part, quelqu'un toujours demande, est-ce que vous faites une suite à Incassable? Tout le monde, à chaque fois j'ai toujours cette... C'était une histoire qui ne devait pas terminer comme elle a terminé dans Incassable. Il fallait vraiment que je finisse l'histoire, c'est sûr. Pour avancer, pour passer à autre chose. Mais c'était sympathique parce que quand on voit que finalement Incassable est arrivé avant les films inspirés des bandes dessinées. Et donc il y a eu beaucoup de films qui ont été faits depuis. Et d'avoir une conversation un peu méta là-dessus, sur Glass. Et ensuite, maintenant, peut-être que je peux changer de sujet. Peut-être que c'est une façon de m'en défaire.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Oh, thank you.
France Inter. Antoine Decaune.
Avant de retrouver James McAvoy, pop break dans ce pop, un point schizophrénique pour lancer les news.
Skatepunk et Garage à l'honneur, lancement Camoulox pour accueillir comme il se doit le retour d'un groupe que j'aime beaucoup. Les Américains de Fiddler sortent enfin un troisième album composé à Hawaï, parce que pourquoi pas. Un album intitulé Almost Free, précédé de ce single Be Myself. L'album de Fiddler Almost Free arrivera le 25 janvier.
Un nouveau héros bientôt dans vos télés, il s'appelle Alex Goldman et comme il est un peu control freak, il va se présenter tout seul.
Je suis un homme comblé. Je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je dirige ma propre entreprise à Londres. Nous sommes une famille très soudée.
Randy m'est toujours en vie.
Écarte-toi de la porte, ne reste pas devant.
Vous, votre famille, vous n'êtes plus en sécurité.
Je ne blanchis pas d'argent.
Le capital, l'argent en mouvement, c'est ça notre arme.
Alex Goldman est le héros de Mac Mafia et il a passé sa vie à échapper à l'ombre de ses parents et à leurs liens avec la mafia russe. Mais un jour, le passé meurtrier de sa famille ressurgit. Mac Mafia, une série de la BBC diffusée à partir du 14 février sur Warner TV.
Vous avez peur des lapins ? Eh ben après ce qui suit, ça pourrait bien changer. Ce qui va suivre est un film très très chelou nommé Rotten Tail, l'histoire d'un chercheur qui suite à une morsure de lapin commence à muter. Ambiance, je vous préviens, un poil hystéro. Alors, à noter, puisqu'on n'est pas à une étrangeté nanardesque près, que le chercheur du film, c'est Corinne Nemec, c'était le Parker Lewis de la série, et cette œuvre qui sent bon, la série Z, devrait arriver avant l'été.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Oh, Stuart.
Oui. Merci, Charline.
Je vous en prie. Quand Joséphine, peut-être, non ?
Quand Joséphine Ange-Gardien a besoin de se rendre à Sablé-sur-Sarthe pour sauver le monde, elle fait ça. Mais pour aller parler avec James McAvoy, moi je fais ça. Vous êtes venu tout seul ou bien est-ce que vous êtes accompagné d'une horde perso ?
Non,
je suis tout seul aujourd'hui. Dieu merci.
I travel light.
Je voyage léger.
Vous revoilà 3 ans après Split, dans la peau, enfin dans les peaux de Kevin Wendell Crumb. Et cette question traditionnelle posée aux comédiens prend ici tout son sens. Comment se prépare-t-on à réendosser, enfin ceux en l'occurrence, ces rôles ?
Ah, it's difficult.
Difficile. On s'y remet à certains rôles, et puis on s'intéresse à de nouveaux rôles, parce que dans ce film, j'en joue 20. On regarde les autres, d'observation, on essaie de se rappeler de plein de choses, comment les gens respirent, comment marchent, leur démarche, et ça nourrit les nouveaux personnages. Il y a tellement de choses à faire et de travail après préparation que vous prenez aussi ce que vous avez fait pour le premier film. Et donc, ça, parce qu'il n'y a pas le temps, il y a peu de temps pour tout ça.
Est-ce que ça a une incidence sur votre vie réelle ?
Je ne crois pas. Je ne ramène pas tellement mes soucis de travail à la maison. Je me sépare très facilement, finito, je bois un coup et puis voilà, c'est fini.
Mais alors justement, comment est-ce qu'on sort d'une telle prestation ? Dans quel état ?
Physiquement, c'est très fatigant. L'alcool, ça aide. Non, j'arrête. Mais bon, je continue à boire. Je ne sais pas. Je finis le boulot, et puis voilà, je passe à autre chose. J'ai joué Macbeth au théâtre il y a quelques années, et ça, apparemment, ça m'a rendu assez difficile dans la vie, quand j'ai joué ça. Et puis j'ai vu Trent que j'ai fait avec Danny Boyle, c'est un film qui a changé, qui m'a affecté un peu, mais c'est les deux seules fois où j'étais affecté.
Est-ce qu'un personnage à personnalité multiple, c'est forcément un rêve de comédien ?
En tout cas pour moi, oui. Et si les personnages sont bien écrits, et ce qui est le cas par M. Shyamalan, alors c'est un rêve pour moi à jouer. Mais c'est une tonne de boulot. C'est difficile de parfois trouver un seul personnage, et d'en faire donc 9 ou 20. C'est 20 fois le même travail. Mais comme ce sont tous des personnages que j'aime jouer, parce que Patricia, elle est comme une bonne sœur et elle aime bien être touchée, elle aime bien être coquine. Il y a un gamin de 9 ans qui jamais ne va grandir. Il a 9 ans depuis quoi ? 30 ans ? C'est très intéressant ça à jouer. Et puis j'ai 18 autres personnages à trouver, donc c'est une joie pour moi.
C'est un plaisir d'acteur. Est-ce que c'est aussi un rêve d'agent ? Il y a 24 rôles à négocier pour un seul comédien ?
Non.
Mon agent et mon avocat ont fait cette blague déjà. En disant, ouais, youpi. Mais comme on a fait ce film sur un très petit budget, là, Split, c'était vraiment des budgets très bas, on sera payé à la fin, selon le succès. Et donc voilà. Mais j'ai une bonne part, oui.
Vous le disiez dans le film, vous êtes donc Hedwig, l'enfant de 9 ans, la bête, Patricia, maîtresse femme, Barry, homme de mode, Dennis, le rigide et bien d'autres. Laquelle de ces personnalités vous a donné le plus de difficultés ou de plaisir ?
La bête, c'était vraiment le plus difficile à trouver. Parce que c'est pas juste quelqu'un de normal qui est un méchant. Il a un côté animal. Il faut qu'il soit comme un peu comme un alien. Alors tout de suite, on est dans un territoire où de trop jouer, c'est possible, ou de mal jouer, c'est possible. Donc, il faut faire attention. Il faut en faire un animal, un alien, mais en même temps, il faut vraiment essayer de ne pas trop en faire. On passe par sa voix. On a trouvé une voix étrange pour lui. Et ça ne marcherait pas si jamais simplement je jouais normalement. Mais là, on a vraiment poussé des choses. Donc, on est allé vraiment assez loin. Hedwig était difficile aussi à trouver. Mais quand on l'a trouvé, immédiatement, il a été un des plus faciles à interpréter. Et puis drôle à interpréter. Et un des seuls pour lesquels Knight me laissait improviser. Parce que la plupart du dialogue est très écrit. Et il veut vraiment entendre le dialogue qu'il a écrit. Il n'aime pas l'improvisation, Knight. Mais avec Hedwig, on pouvait s'amuser. Et donc j'ai beaucoup plus pu improviser ce rôle que les autres.
Drake, c'est vous ou lui?
Drake? It's all me, man.
Drake, c'est moi. Complètement moi.
Drake
le sait.
Affronter physiquement celui qu'on imagine aisément être un de vos héros d'enfance et d'adolescence, à savoir Bruce Willis, est-ce que ça fait quelque chose de particulier? En d'autres termes, le corps à corps avec John McClane, c'est spécial?
It was difficult, you know.
Vous savez, ces gens-là, c'est pas des vedettes de cinéma. C'était des vedettes de cinéma pour moi quand j'étais enfant. Et donc, c'est très différent que de travailler avec Jennifer Lawrence. Ou même Michael Fassbender. Ça, ce sont des énormes vedettes de cinéma. Mais c'est mes copains, c'est mes potes, c'est cool. Mais Bruce Willis et Samuel L. Jackson, je me dis, oh mon Dieu, quand j'étais tout petit, très impressionnable, je jouais avec mes petits jeux et je les regardais, je les voyais à la télévision. C'était fou. Et donc, il fallait que j'aille tuer Bruce Willis dans un film. Ça, ça a été intéressant pendant quelques jours. Et puis, il y avait ce harnais avec une caméra qui était attaché à lui. Il portait ce harnais avec une caméra. Et moi, je devais le serrer très fort dans mes bras. Et ce harnais était plein de pièces métalliques qui étaient très pointues. Et donc, on m'a demandé de le serrer encore, de le serrer. Et je me suis vraiment blessé. Et donc, oui, ok, on s'y remet. Mais il a été génial. Mais cette prise, il a fallu la faire de nombreuses fois. Et bon, je peux dire, oui, he dies hard. Sa mort est difficile.
Alors, j'ai un souci qui est certainement d'ordre psychologique, James McAvoy, mais je trouve Kevin, la horde et même la bête assez touchant. Est-ce que c'est très grave, docteur?
Non,
tout va bien. Ils sont tous, je crois. Je ne pense pas que ce soit des vilains, des méchants, tous. Ils essaient, quelque part, de faire quelque chose qui soit bien. Mais ils s'y sont pris de façon extrêmement mauvaise. Kevin n'est pas un méchant. Kevin, c'est quelqu'un qui a voulu se suicider. C'est tragique. Mais même la bête, qui finit par manger les gens, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas un gentil. Mais il fait ça parce que il aime les gens que lui, il aime les gens qui ont souffert, et sa colère est vraiment remontée pour les défendre, contre tous ceux qui le ont fait du mal.
Incassable a vraiment changé quelque chose dans l'univers super-héroïque, tout comme Split et Glass, très probablement. Et il se trouve que, au hasard, vous êtes aussi le professeur Charles Xavier dans les X-Men. Ces deux expériences, l'une déconstructionniste et l'autre classique, sont-elles complémentaires à vos yeux?
Yeah, I think so.
Oui, je trouve.
Even as Charles Xavier,
même Charles Xavier, j'ai des choses à explorer en tant que comédien dans un film, en particulier, montrer vraiment son état mental, quelqu'un qui avait un problème, et puis aussi qu'il est addict à la drogue et à l'alcool. Et donc c'est vraiment un rôle à jouer. Mais c'est bien sûr un film plus conventionnel en tant que super-héros. Ce qui vraiment change, c'est que là, les personnages sont très complexes aussi, mais par contre, la mise en scène, le ton du film, le sérieux avec lequel Il parle des super-héros. C'est différent chez Knight. On s'amuse beaucoup de nos personnages dans les autres films de super-héros. Les films Marvel sont pleins de dérision, c'est bien. Mais là, ici, on prend les choses vraiment au sérieux. C'est un peu différent.
Thank you very much.
Thanks, guys. Cheers.
Thanks a lot.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Merci M. Night Shyamalan et James McAvoy. Glass, ça sort mercredi. Avant de faire un détour par la planète pop de Ronan Crowe pour parler super-héros, allons faire quelques kilomètres pour écouter Eminem.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment you own it. As we move toward a new world order, a normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows.
Fucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life. And these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail.
Lose Yourself, extrait de la BO du film d'Eminem, 8 Mile. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon Et on passe d'Eminem à Ronan Crowe. Je ne sais pas si on y gagne au change d'ailleurs pour parler de nouveaux héros. Bonjour Ronan Crowe.
Ben oui, bonjour.
Bienvenue, vous nous avez beaucoup manqué.
C'est vrai.
Vous étiez parti en voyage, comme le dit votre sweatshirt.
Effectivement, j'étais un petit tour du monde avec Antoine sur un
voilier. C'est un très beau sweatshirt.
Un autre Antoine en fait.
C'est vrai.
Oui, Antoine Ouillet.
Antoine le Atoll. Antoine Atoll.
Voilà. Ouais.
C'est très joli votre sweatshirt de
c'est
voyage,
vrai.
Oui.
C'est joli. Non, c'est, pardon, c'est voyage. C'est la chanson de Desireless. Hein.
Ah,
tout
pardon,
c'est moins.
C'est Desireless.
Voilà.
Vous
merci.
Nous parler de Desireless.
Non. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Desireless, même si ce serait une belle idée.
Oui, mais une autre fois peut-être.
Vous parliez tout à l'heure avec Night Shyamalan de Shyamalan.
C'est dur à dire.
Avec le monsieur qui a fait le film de mythologie, de comics, de super-héros. Bah, ça tombe bien parce qu'au cinéma en 2019, on a de nouveaux héros. Mm-hmm. On a besoin de héros. Et ça tombe bien, depuis mercredi, ce héros est là.
Ouais.
Philippe Bouvard.
Je veux bien sûr parler de Laurent Ruquier, des grosses têtes.
Oui, hein,
Et oui, évidemment, c'est Rocky, le retour de Rocky, avec Creed 2. Alors attention Antoine, ça va être compliqué, il s'agit de la suite de Creed 1 qui est en fait la suite de Rocky 4. Est-ce que vous me suivez ?
Oui,
vaguement. C'est-à-dire qu'en fait...
C'est-à-dire c'est pas la suite de Rocky 6.
Ce n'est pas la... si, mais en même temps, c'est surtout la suite de Rocky 4. On avait
attendez,
dans Creed
il faut bien
1...
prononcer, parce que Rocky 4...
Rocky 4
Rocky... Redites-le-moi bien.
Rocky 4.
C'est Rocky
4. Non, tout de suite, Charlie...
Elle n'est pas censée incarner de bon goût dans cette émission.
Aussi, normalement, bon, Rocky donc, 4 donc.
Non, je dis tout ce que vous n'osez pas dire, en fait.
Creed de Stephen Caple Jr., qui est la suite de Creed, le premier film réalisé par Ryan Coogler, alias Monsieur Black Panther. Alors, c'est le retour de Apollo Creed, évidemment. Enfin, c'est le retour du fils d'Apollo Creed, pardon, Adonis Creed.
C'est pour ça que ça s'appelle Creed.
Exactement. Apollo Creed qui était mort dans le Rocky 4.
4.
Effectivement. Eh bien, dans ce Creed 2, c'est le retour aussi de qui ?
De l'ennemi juré.
Évidemment, du méchant très très russe.
Ah, le gros russe.
Dolph Lundgren.
Mais il a quel âge Dolph Lundgren ?
Ah bah là, il a vieilli, il a un fils qui s'appelle Victor.
Et il fait l'entraîneur alors ?
Et il fait l'entraîneur effectivement. D'accord. Et c'est le combat entre Adonis et Victor.
Donc c'est un peu le combat entre les deux entraîneurs aussi.
Et effectivement, et c'est le retour de Rocky vieillissant. Alors Sylvester Stallone est un petit peu vieilli effectivement. C'est très beau parce que c'est un film mélancolique en fait. C'est la question de savoir si les fils doivent réparer les erreurs des pères. Et ce qui est très beau, c'est que c'est un vrai film de boxe.
Hein, question à laquelle vous répondez quoi ?
Je réponds la réponse D, Jean-Pierre, effectivement. effectivement, la question du film, c'est de savoir si les fils doivent réparer les erreurs des pères, mais surtout de se poser la question si la boxe n'est pas devenue un spectacle qui n'a aucun sens. Mm-hmm. Et vous, Antoine, qui êtes un boxeur très célèbre,
mi-léger,
mi-poids lourd, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? La boxe est-elle un spectacle qui n'a plus de sens ?
Non, pas du tout.
Merci. Le film se construit vraiment sur l'idée du spectacle pour le spectacle, de la violence et de la mort qui plane. C'est un film fabuleux, vraiment. Vous, Antoine, qui aimez la boxe, vous allez vous en prendre plein la tête. Vous, Charline, qui aimez les beaux jeune homme, vous allez vous en prendre plein la tête aussi.
Très bien.
C'est magnifique, c'est très impressionnant. Mais en fait, en France, vous allez me dire, Antoine, mais on n'a pas de héros
mais
en
c'est
France.
Donc, on est d'accord, c'est Creed contre Drago, en fait.
Oui, c'est
la nouvelle génération.
C'est ça.
Incroyable.
Contre Victor
héros,
Drago.
On n'a pas de héros, on a Christophe D.
Christophe D, c'est-à-dire ?
Gilet jaune.
Oh non.
Bon. Là, vous parlez de
non,
boxe.
Non.
Non.
Non, on parle du noblard.
Exactement. Ouais, en France, on a un héros national, c'est lui.
C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap. C'est une péninsule.
Alors là, avec votre esprit tortueux, vous allez m'expliquer que Cyrano de Bergerac pratiquait la boxe.
Aussi, il pratique le fleuret.
Pas, bah oui, bien sûr.
Non, c'est surtout qu'en fait, il pratique la mythologie, l'art du héros, l'art du panache. Mm-hmm. Et ce qu'a Cyrano de Bergerac en commun avec Rocky, avec Creed, c'est le panache. Et ça tombe bien parce qu'en salle, depuis mercredi, il y a un très très bon film qui s'appelle Edmond d'Alexis Michalik, qui est vraiment un film formidable. Alors vous y allez, vous emmenez toute la famille, ça raconte la création de la pièce Cyrano.
Aussi bien que la pièce ?
Aussi bien que la pièce. Et vraiment, j'ai adoré la pièce, et c'est aussi bien que la pièce. Ça raconte la création de la pièce Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Et ce qui est très beau dans le film d'Alexis Michalik et dans la pièce, qui se joue toujours d'ailleurs au théâtre du Palais Royal, c'est qu'en fait, ça nous raconte le désir de héros et le désir de raconter des histoires. Mmh. Et quand on voit donc le film Edmond, ça nous donne très envie de revoir Cyrano de Bergerac. Ça tombe bien parce qu'il ressort en salle. C'est plutôt une bonne nouvelle,
ouais,
non, de revoir
excellente nouvelle.
Excellent film de Jean-Paul Rapneau. Le plus grand rôle de Gérard Depardieu.
Ouais.
On est d'accord.
Ouais.
Et surtout, vraiment, ces deux films, Creed 2 et Edmond, à aller voir en salle pour se redonner un peu confiance en 2019. Ça tombe bien, j'ai une petite chanson, moi aussi, comme Bonnie Tyler. Voilà, j'ai décidé de terminer mes chroniques sur
donc
Bonnie
on
Tyler.
On commence par Desireless et on finit avec Bonnie Tyler.
Mais Bonnie Tyler, c'est 2019, la France. We need a hero.
Merci, Renan, et bon voyage, oh, voyage
en fait, toute une carrière là-dessus, en fait.
Voilà, hein. Il est l'heure pour plus moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Oh, il fait froid ici, là. Mais qu'est-ce que tu fais encore au lit, Henri, mon cochon, sous ta grosse couette ? Quoi ? Tu veux me dire ton secret ? D'accord.
Quoi ?
Tu vois des gens qui sont morts ? Non mais attends, en rêve tu veux dire ? Non, quand t'es éveillé, tu vois des morts ? Dans des tombes ? Quoi ? Ils vont et ils viennent comme n'importe qui ? Ils se voient pas entre eux ? Ils savent pas qu'ils sont morts ?
Mais qu'est-ce que tu me racontes, Henri ?
Mais tu en vois souvent ? Tout le temps ? Il y en a partout ? Ah mais non, je sais, ce sont les pochettes de mes vinyles, Henri. Alors oui, beaucoup sont morts, d'accord, ils se voient pas entre eux. Mais c'est normal, ce ne sont que des pochettes, des photos, quoi, si tu préfères. Ah oui, je sais, tu as eu peur, t'es con aussi. Tiens, regarde ce vinyle, Lou Reed, Vicious. Tu vois bien que c'est une photo ? Allez, bon allez, on l'écoute. N'aie pas peur, je te dis. Tout va bien se passer, Henri. Tout va bien se passer.
Lou Reed, Vicious, c'était en 72 sur l'album Transformer et c'était aujourd'hui dans Pop 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 sur France Inter. Merci M. Night Shyamalan et James McAvoy pour cet entretien. Je rappelle que Glass sort ce mercredi. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Clément Berman, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restal, nos attachés de production, et à la programmation musicale, le Djoubaka. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop Pop Pop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos schizophrénie sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast. Abonnez-vous à notre podcast. Abonnez-vous à notre podcast.
Abonnez-vous à notre podcast.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials 3615 pop pop pop, sur Instagram et Twitter.